Oui. Radio Lac. Partageons nos opinions.
Autour de cette question matinale spéciale, la place de la Suisse au sein de l'Union européenne, nos invités Tchani Nagy, membre du think tank For House, et Adrien de Riedmatten, coordinateur en Suisse romande de l'ASIN, l'action pour une Suisse indépendante et neutre, ne sont pas forcément d'accord sur la place que doit avoir la Suisse au sein de l'Union européenne. Et vous, qu'en pensez-vous ?
On vous a posé la question et finalement vous avez des réponses assez similaires à ce que l'on pouvait attendre sur la question, à savoir que finalement l'Union européenne est en bonne voie, mais qu'il y a des efforts à faire, on l'écoute.
Je pense que l'Union européenne, elle a effectivement besoin de réformes, mais qu'avec Macron et Merkel qui sont en train de donner plus de pouvoir en fait à l'Union européenne, on est dans une bonne voie pour amener à une Union européenne qui est plus forte et plus stable. Puis la Suisse là-dedans, moi je pense qu'elle est bien comme elle est, puis il ne faut pas trop qu'elle bouge. Je pense que c'est bon comme ça.
Tchani Nagy, vous qui êtes membre du think tank For House, qui est un membre, donc un think tank qui s'occupe spécialement des questions européennes, c'est vrai qu'on a parfois tendance à résumer l'Union européenne au couple franco-allemand. Est-ce que c'est uniquement ça ? Est-ce que si ce couple bégaye, rien ne fonctionne ?
Pendant longtemps, l'Union européenne avançait quand le couple allemand, franco-allemand plutôt, se mettait d'accord. Maintenant, on a 28 États dans l'Union européenne. Il y a eu l'élargissement justement aux pays d'Europe centrale et orientale. Et je dirais mécaniquement, ce couple a perdu en importance politique. Maintenant, évidemment, s'ils arrivent à se mettre d'accord aussi avec les pays du Benelux, ils arrivent malgré tout à créer une force d'entraînement qui très souvent amène les autres États à les rejoindre. Par exemple, on a vu ça sur les questions de défense récemment, il y a eu des avancées. On peut aussi penser qu'au niveau de la zone euro, il y aura des avancées si le couple franco-allemand, les pays du Benelux tirent tous à la même corde.
Pour revenir à la question du jour, donc la visite de Jean-Claude Juncker à Berne, il sera donc question de fameux milliards de cohésion. Vous nous expliquez que ça avait été un accord pour permettre à la Suisse d'accéder à ce marché unique. Adrien de Riedmatten, vous êtes donc coordinateur en Suisse romande de l'action pour une Suisse indépendante et neutre. Si on comprend bien le deal, nous payons 1 milliard pour avoir accès à un marché.
Oui, d'autant que, comme je l'ai dit, c'est pas le premier milliard. Il faut quand même... J'aimerais remettre 2-3 petites choses un petit peu en ordre. On a parlé tout à l'heure de la question de l'intégration de la Suisse et de l'Union européenne. Il n'en est pas question. On est encore, jusqu'aux dernières nouvelles, un État libre, souverain et indépendant. Donc il n'est pas question d'adhérer pour l'instant, même si malheureusement, par les faits, on y arrive doucement, si vous voulez, par la bande. Ensuite, on a mentionné l'euro. Je pense que l'euro reste un symbole, il est symptomatique, si vous voulez, d'une cession de souveraineté. Je rappelle, pour nos auditeurs, les 4 piliers de la souveraineté, donc battre la monnaie, faire les lois, rendre la justice et décider de la paix et de la guerre.
Sans note, vous l'avez dit. Vous l'avez dit sans vos notes.
Voilà. Et je veux dire, on a effectivement des micro-sessions qui se trouvent notamment par le partenariat avec la paix. On commence à participer à l'exercice de l'OTAN, ce qui pour l'ASIN évidemment est un problème parce que ça blesse la souveraineté. Au niveau des lois, etc., on a des interventions du droit international. Et puis maintenant, effectivement, l'euro, personne n'y a avantage en Suisse. On se demande même d'ailleurs si l'Union européenne a vraiment avantage à ce que la Suisse passe dans l'euro. En revanche, notre argent les intéresse toujours. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose une redevance, un abonnement pour accéder à un marché. Qu'on passe son temps à nous refuser, ou du moins à nous menacer de nous refuser, dès le moment où on veut gérer nos frontières comme on l'entend.
Vous venez de dire à l'instant que parmi les 4 piliers de la souveraineté nationale, il y a la justice. Ça nous amène à votre fameuse initiative sur les juges étrangers. Il y en a aussi un peu question à travers ce fameux milliard de cohésion. C'est aussi une manière pour la Suisse, dans la tractation, de dire on va vous donner ce milliard, puis en même temps, on va se permettre de ne pas d'avoir notre propre justice hors juges étrangers. Actuellement, vous m'arrêtez si je me trompe, Tchani Nagy, la Cour européenne de justice est supranationale sur la question.
Pour la Cour de justice de l'Union européenne et en effet supranationale, nous ne rentrons pas dans sa juridiction pour la plupart des accords bilatéraux. Nous ne reconnaissons pas sa jurisprudence, pour être plus précis. Maintenant, évidemment, si la Suisse concluait cet accord institutionnel, qui est en négociation depuis plusieurs années, nous devrions reconnaître la jurisprudence de la Cour pour les accords bilatéraux, pour ce qui relève des accords bilatéraux. Maintenant, la Suisse est souveraine. Elle peut conclure cet accord institutionnel ou pas. Après tout, ça fait presque 4 ans qu'on le négocie. Si la Suisse ne veut pas le conclure, on continue à négocier jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Il n'y a pas inévitabilité, la Suisse reste un pays souverain et elle négocie avec l'Union européenne de manière souveraine.
Justement, un WhatsApp qui n'est pas signé, mais qui nous dit au 079 918 3000, les États-Unis d'Europe, voilà une solution intelligente. Peut-être que la Suisse peut avoir un rôle de médiateur à jouer. Qu'en pensez-vous, messieurs ?
Alors, effectivement, bon...
Adrien Driedmatten.
Je pense que la Suisse a toujours eu ce rôle. Si vous regardez son histoire, avec le service capitulé, vous aviez un régiment suisse dans pratiquement toutes les cours d'Europe. Donc, militairement, la Suisse était déjà une forme d'arbitre. Hein. Si vous faites l'histoire des armes suisses, vous faites l'histoire de l'Europe, d'une certaine manière. Aujourd'hui, maintenant, évidemment, depuis les bons offices, depuis un peu plus de 100 ans, on a un autre rôle qui est toujours un rôle de médiateur, qui se limite pas à l'Europe, d'ailleurs, qui s'étend au monde. Et je pense qu'effectivement, quelle que soit la forme que l'Union européenne adopte, la Suisse restera un partenaire. Ça paraît évident. Maintenant, vous voyez un petit peu où on en est rendu. On doit payer 1 milliard pour avoir le droit de continuer à appliquer notre propre jurisprudence et notre propre justice. C'est un problème.
Si on pose le raisonnement un petit peu loin, on paye d'une manière quand même conséquente à travers ce milieu de cohésion, mais pas seulement. Hein. En même temps, donc, on paye pour l'Union européenne, mais nous ne sommes pas membres. Finalement, on n'a que les avantages et pas les inconvénients. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas membre pour au moins avoir un poids politique dans ces cas-là, puisque l'on paye de toute façon?
Disons, c'est comme dans toute histoire d'amour, on aurait des avantages si on était vraiment libre. Dès le moment, là, on s'est lié, si vous voulez, par des accords. C'est clair qu'on a été libre au moment.
Alors pourquoi payer ?
Mais on a eu des garanties. Bah, c'est ça. Pourquoi payer pour une cohésion ? La cohésion devrait être là, naturellement, là.
Tchéni Nadji, vous êtes en train de vous gratter la tête.
Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les coûts financiers et ce qui relève de l'économique. Alors c'est vrai que financièrement, la Suisse débourse chaque année plusieurs centaines de millions de francs au titre des accords bilatéraux. Mais ces accords bilatéraux, on le sait, il y a des études qui ont été faites, sont bons pour l'économie. Donc ce qu'on dépense d'un côté, on le récupère quasi entièrement, voire même davantage de l'autre. Et c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, faire l'analyse économique de la situation. Autrement, on rate toute une partie de l'analyse.
Le but, c'est de comprendre finalement quels sont les enjeux de la visite de Jean-Claude Juncker aujourd'hui à Berne, de ces fameux milliards de cohésion, car il y en avait déjà eu un en 2006, si je ne dis pas de bêtises. Et Thierry également nous pose une question par WhatsApp et nous dit le problème, c'est l'Europe politique qui est, je vais le retrouver car il vient de disparaître, le problème, c'est l'Europe politique qui est beaucoup moins démocratique que la Suisse.
Alors ça, évidemment... Pardon, et l'auteur a pas, l'auteur du message a parfaitement raison. On est quand même confronté à une commission qui cherche à éviter, disons, la confrontation avec l'élection populaire. Ça, au niveau de la culture suisse, ça, c'est pas sans nous poser problème.
Ah, bah oui. Des grands signes de la part de
Moi, j'ai pas voté pour Monsieur Parmelin. Le Conseil fédéral n'est pas élu directement par le peuple en Suisse. C'est pas le cas de la Commission européenne. Je dis pas que l'Union européenne est un objet politique parfaitement démocratique. Il y a évidemment des choses à améliorer, beaucoup de choses à améliorer. Mais en tout cas, sur cette question de l'élection ou la non-élection de la Commission européenne, je constate qu'on a un système assez similaire en Suisse et ça pose de problème à personne. Alors l'UDC avait en effet lancé une initiative pour que le Conseil fédéral soit élu directement par le peuple, mais ça a été rejeté par la population. Donc finalement, on est dans un système assez comparable.
C'est une bonne chose, mais comprenez, ce qu'on reproche à l'Union européenne, c'est pas d'exister, c'est pas d'être comme elle est. Ma foi, ils ont leur propre système, ça les regarde. Mais c'est cette exigence permanente de cession de souveraineté. D'ailleurs, on voit les pays de l'Est commencent gentiment à regimber. Pourquoi cette vision hégémonique qui exige une cession permanente de souveraineté à tous les étages ?
Mais la cession de souveraineté, elle se fait en accord avec les populations. Dans tous les pays qui ont adhéré à l'Union européenne, il y a eu un référendum sur l'accession. Donc c'est la population
que nous avons refusé en 92.
Exactement. Nous avons refusé d'accéder à l'espace économique européen. Et puis ensuite, a fortiori, nous n'avons pas accédé à l'Union européenne. Nous avons gelé dans un premier temps en fait, notre demande d'adhésion. Puis après, on l'a retirée il y a quelques années en arrière. Donc la Suisse n'est pas prête à adhérer à l'Union européenne. Et la volonté populaire est de toute façon respecté sur cette question-là en Suisse en vertu de la démocratie directe.
Justement, la volonté populaire, on va l'écouter. Barbara Bertoli, allez-vous demander ce que vous pensiez, vous, de l'Union européenne ?
Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne chose que les forces de tous les pays se mettent ensemble, qu'il y ait un partage de toutes les richesses de chacune des cultures.
C'est au niveau politique, je trouve qu'il y a des points qu'il faudrait revoir dans l'ensemble.
Je pense que la Suisse, il faut qu'elle s'ouvre et qu'elle prenne part à la communauté internationale.
Je pense que c'est plutôt une création qui a été faite pour la paix et c'est plutôt positif. Après, il y a des problèmes au niveau de la démocratie qui sont à revoir, mais globalement, je trouve ça plutôt positif.
C'est assez sympa de pouvoir travailler dans des autres pays.
Bah, c'est une bonne idée sur papier. Après, voilà, faudrait qu'il y ait des choses qui soient mises en place un peu plus concrètes et puis que tout le monde aille dans le même sens pour que ça fonctionne. Mais
bah, c'est plus ce que c'était avant, en tout cas.
Il y a des progrès encore à faire. C'est clair qu'il y a des réformes à faire, etc. Mais que la Suisse profiterait grandement d'y rentrer.
On le voit, il y a une désillusion du rêve européen. C'était quelque chose de très à la mode dans les années 90 et avant. Ça allait beaucoup moins, y compris dans les propos qu'on vient d'entendre chez Ninadji. L'Europe ne fait plus rêver.
Mais peut-être que le problème, c'est justement que l'Europe n'a jamais été conçue pour faire rêver, en tout cas pas cette Europe-là. Cette Europe dont on parle aujourd'hui, c'est essentiellement un marché commun. C'est dur pour un marché commun de faire rêver. Les dirigeants européens n'ont jamais voulu développer, en tout cas jusqu'à maintenant, une Europe de la culture, une Europe de l'éducation, une Europe sociale, tout ce qui aurait pu justement
faire rêver. Ça doit vous faire plaisir, Adrien de Rydmaten.
Faire rêver les Européennes et les Européens. Donc j'ai envie de dire, regardons l'objet politique, et l'objet politique en lui-même n'est pas fait pour faire rêver. Il est fait pour préserver la paix et la prospérité sur ce continent.
Je trouve très intéressant d'entendre M. Cini sur cette question parce qu'il représente, si vous voulez, un courant de pensée. On nous dit maintenant que l'Union européenne n'est plus autre chose qu'un marché, donc on rétropédale. L'Union européenne a eu quand même cette prétention jupitérienne de constituer une nouvelle nation unie qui écrasait les petits nationalismes. D'ailleurs, on voit les critiques que les grands gouvernants de l'Union européenne adressent à ce qu'ils identifient comme les nationalismes. Pourquoi est-ce que l'Europe ne plaît pas ? Parce que les gens sentent que leur liberté s'amenuise. Il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réelle démocratie directe en Europe, elle n'est pas possible. On voit même qu'en Suisse, elle se réduit comme peau de chagrin sous la pression européenne. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? La population a voté le 9 février pour limiter l'immigration. La réaction de l'Europe a été la menace. On vous coupe la recherche, on va vous faire la guerre.
C'est du donnant-donnant aussi.
Mais du donnant-donnant, il faut quand même aussi qu'un jour on puisse récupérer quelque chose, parce que c'est pas parce qu'on a
ses
propres chiffres du chômage qu'on n'a pas de chômage et qu'on n'a pas d'aide sociale en Suisse. On a quand même une baisse, si vous voulez, de rentabilité à cet égard-là. Donc il faut quand même, au bout d'un moment, pouvoir savoir qui gouverne en Suisse chez nous, ici.
Je vous coupe très rapidement. Tchénina, dis-vous qui êtes membre du Think Tank for House, qu'est-ce qu'on récupère pour répondre?
Alors, on récupère 120 accords bilatéraux qui nous permettent un très bon accès au marché intérieur et qui contribuent à la prospérité à laquelle nous avons aujourd'hui, qui nous laisse avec 3% de chômage.
On sait l'impact de ça sur notre économie, parce que c'est des mots, mais concrètement, est-ce qu'on peut dire, si on n'était pas, si on n'avait pas accès au marché commun, eh bien, on aurait...
Alors, on ne peut jamais dire avec 100% de précision et d'assurance qu'est-ce qui se passerait si on n'était pas partiellement dans le marché de l'Union européenne. Mais par exemple, le Conseil fédéral l'année dernière a sorti une étude pour expliquer que, avec une méthodologie qu'on peut discuter, mais que si on n'était pas membre justement de ce marché, on perdrait probablement plusieurs milliards par année et probablement le chômage serait un petit peu plus élevé. Il faut quand même voir que la libre circulation des personnes, par exemple, a flexibilisé le marché du travail et on sait très bien, on a fait des études là-dessus, que tout cela rapporté au produit intérieur brut est tout à fait positif pour notre économie.
J'allais lancer l'information, mais j'ai l'impression qu'il y a une réponse qui se dessine en face.
C'est extrêmement douteux.
Il faut savoir juste que vous êtes, pardon, pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, vous êtes coordinateur en Suisse romande de l'Asile, l'action pour une Suisse indépendante et neutre.
Alors, deux choses. La première, c'est qu'un accord bilatéral, ce n'est pas un cadeau que nous fait l'Union européenne. C'est un accord qu'on fait d'égal à égal avec l'Union européenne. Ça, c'est déjà une chose. Donc, l'Union européenne ne nous fait pas des cadeaux en signant des accords bilatéraux avec nous, d'une. De deux, il faut quand même savoir que la Suisse est un des seuls États au monde à avoir ses propres chiffres du chômage, hein, qui sont deux points inférieurs à ceux du BIT, donc il y a un bureau international du travail qui fait des chiffres, et puis la Suisse fait ses propres chiffres pour lui dire que tout va bien. Moi, je viens du Valais, on a effectivement des chiffres du chômage qui ne bougent pas, et une explosion de l'aide sociale de 200% en 10 ans. Alors, il faut quand même qu'on m'explique, il y a eu le problème. Là, on a quand même une augmentation, par exemple, dans le Chablais des frontaliers, on a la paupérisation qui va avec, mais chômage, tout va bien.
Oui, mais Décathlon est venu s'installer de notre côté de la frontière dans le Chablais.
Ils en fument, je dirais, il faut quand même un moment ouvrir les yeux.
Restez avec nous, messieurs, on continue de parler de l'intégration, de la place plutôt de la Suisse au sein de l'Union européenne jusqu'à